Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à tous. D'ici une heure et demie, le pape François présidera la veillée pascale depuis l'hôtel de la chaire de Saint-Pierre au Vatican. Pour la suivre en direct et commenter en français, une adresse www.vaticannews.va. En attendant, prenons la direction de la Syrie. Dans un pays ravagé par la guerre et les sanctions économiques, des milliers de personnes participent au rite du temps pascal, comme si une résurrection collective était attendue avec impatience en même temps que celle du Christ. Monseigneur Joseph Tobji est archevêque maronite d'Alep. Il témoigne sur nos ondes.
Pâques est l'un des petits moments de joie que l'on a. Sinon, tout nous porte aux ténèbres. La crise économique et la pauvreté qui en découle paralysent le pays. Mais ce temps de Pâques apporte, grâce à Dieu, un peu d'espérance. Nous remettons toutes nos souffrances entre les mains du Seigneur. Par ailleurs, les chrétiens font tout ce qu'ils peuvent pour être utiles avec les écoles, les centres sociaux, les hôpitaux. Ils sont le témoignage concret de la lumière du Christ. Tous les jeunes presque rêvent de s'enfuir. Ils ne voient pas d'avenir parce qu'ils ne peuvent pas vivre une vie normale ici. Humainement parlant, il n'y a pas d'espoir, car le tunnel est trop sombre maintenant. Mais le Seigneur sait comment nous sauver de cette terrible situation. Il le sait mieux que nous. Nous devons prier fort, nous devons avoir la foi, nous devons avoir l'espérance.
Des propos recueillis par Federico Piana de la section italienne de Radio Vatican. Je vous rappelle donc la suite des célébrations ce soir à partir de 19h30. Veillée pascale depuis la basilique Saint-Pierre. Et demain, 10h, le pape François célébrera la messe de la résurrection, toujours depuis l'autel de la chaire, avant d'y prononcer son traditionnel le message de Pâques et sa bénédiction Urbi et Orbi. C'était une figure de la paix au Cameroun. Le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, est décédé ce samedi à l'âge de 91 ans. L'ancien archevêque était sorti de sa retraite pour s'engager dans la résolution de la crise séparatiste qui dévore l'ouest du Cameroun, prônant le dialogue entre les anglophones et les francophones. En 2019, le cardinal Toumi avait organisé une caravane de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays pour promouvoir le dialogue et la tolérance. Il était le seul cardinal camerounais. Son successeur à Douala, Monseigneur Samuel Kleda, salue la mémoire d'un homme qui luttait pour la justice du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier. Son témoignage est à retrouver sur notre site internet. En Somalie, les islamistes Chebab ont attaqué deux bases militaires dans le sud du pays. Les terroristes ont fait exploser deux véhicules piégés devant les bases pour ouvrir la voie. Ils ont été repoussés par les soldats somaliens. Les Chebab, qui ont juré de renverser le fragile gouvernement somalien, ont revendiqué ces deux attaques, affirmant avoir tué des dizaines de soldats. Après de longs jours d'embouteillage, le trafic est finalement retourné à la normale aujourd'hui dans le canal de Suez. Un immense porte-conteneur s'était retrouvé bloqué dans le canal pendant près d'une semaine, bloquant la route où passe près de 10% du trafic maritime mondial. Deux mois après le coup d'État des militaires en Birmanie, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir et atteint aujourd'hui près de 550 morts, 2750 personnes incarcérées ou condamnées et plus de 12 000 personnes déplacées. Les manifestants ne baissent pas la garde, mais le niveau de répression s'accroît un peu plus chaque jour. Les explications de Jean-Charles Puzzolu.
C'est surtout l'entrée en lice de l'aviation birmane qui a provoqué le flux des 12 000 déplacés, principalement membres de l'ethnie Karen, dont la faction rebelle avait la semaine dernière pris le contrôle d'une base militaire en abattant une dizaine de soldats. Suite à ce revers, l'armée birmane avait mené des raids aériens dans l'état Karen et bombardé les bastions rebelles. Un coup de force inédit depuis 20 ans et qui risque fort de mettre à mal le cessez-le-feu conclu avec les militaires en 2015. Ces groupes rebelles, ils sont une dizaine, se réunissent d'ailleurs ce week-end précisément pour décider de la marche à suivre. Après le coup d'État du 1er février, ils avaient assuré qu'ils continueraient de respecter l'accord de 2015, mais c'était sans compter sur deux facteurs, les bombardements aériens d'une part, et d'autre part l'opposition birmane, dont une partie est entrée en clandestinité et qui cette semaine a déclaré nulle et non avenue la constitution de 2008, rédigée par les militaires et la formation d'un gouvernement civil de résistance. Autant d'éléments qui pourraient pousser les groupes minoritaires revendiquant une plus grande autonomie territoriale à déterrer la hache de guerre. Le mot est volontairement choisi, il a été prononcé par l'envoyé spécial de l'ONU à Rangoon, qui a évoqué un risque de guerre civile et un bain de sang imminent.
Confinement prolongé aux Philippines, une semaine de plus pour les habitants de Manille, la capitale et des régions environnantes. La pandémie ne ralentit pas dans le pays qui vient même de battre son record d'infection ces dernières 24 heures. Dans la capitale, des tentes ont été dressées à côté des hôpitaux pour pallier au manque de lits. Samedi Saint, le jour silencieux du Tridôme Pascal, un jour entre deux mondes, entre la vie et la mort, lors duquel, il y a plus de 2000 ans, les apôtres et les proches du Christ ont dû composer avec son deuil, sa crucifixion lors de la Passion, Vendredi Saint. Quel sens donner à la vie après la mort d'un être cher? Une question qui concerne forcément chacun de nous à un moment donné de nos existences. Vivre avec la douleur, vivre avec le manque, avec la souffrance fait partie de notre condition humaine. Il s'agit donc d'apprendre à cohabiter avec ces états d'âme pour parvenir à atteindre une profonde paix intérieure. Et bien ce chemin, l'écrivain Anne-Dauphine Julien l'a parcouru après la mort de ses deux petites filles. Auteur d'un puissant livre témoignage intitulé « Consolation », cette mère de famille endeuillée nous confie sa propre expérience du deuil dans une véritable ode aux larmes et à l'esprit de consolation. On l'écoute.
On est consolé quand on se sent aimé, quand on sent que cette souffrance que l'on ressent, elle n'effraie pas, elle ne nous met pas au banc de la société. On est consolé par toutes les mains tendues, par tous les gestes faits, par tous les petits mots qui disent que l'autre est là, tout simplement là. Parfois, j'ai été consolée par des illustres inconnus, des gens que je ne reverrai jamais, mais qui ont vu ma peine et qui n'ont pas été insensibles et qui s'en sont approchés pour me soulager dans cet instant-là.
Et par quel état d'âme passe-t-on avant, pendant et après la consolation?
Bien sûr que la souffrance, elle est là, cette indicible souffrance qui engloutit tout. Il y a beaucoup de peur, moi je trouve, il y a beaucoup de peur qui vient habiter cette souffrance. La peur de ne pas s'en sortir, la peur d'avoir mal comme ça toute la vie, la peur d'être seule. On passe aussi par des moments de tranquillité, je veux dire, des moments où tout à coup la peine desserre un peu son étau et elle laisse un peu de place à la paix. Ça peut être très déconcertant aussi. Moi, je me rappelle avoir culpabilisé de me sentir en paix presque. Pourtant, c'était peu de temps après la mort de ma deuxième fille et puis tout d'un coup, je me suis sentie bien et j'en ai presque culpabilisé en me disant comment est-ce que je peux me sentir bien. Et puis la consolation, petit à petit, elle vient apporter à tous ces états d'âme où elle doit. Enfin, c'est l'ultime but de la consolation, c'est apporter de la paix. L'apaiser, c'est pas empêcher les larmes de couler, bien au contraire, hein, c'est les laisser couler, c'est les accueillir. Et cette souffrance, elle ne fera qu'habiter avec toi, mais elle ne colonisera pas tout ton cœur. Mais c'est ça qui me permet de dire aujourd'hui que je me sens consolée. C'est parce que je connais les larmes très souvent, presque tous les jours. Je pleure encore, mais je connais surtout une paix très profonde. Cette paix profonde, le sentiment d'être ajusté à ce que l'on vit. Je crois que c'est ça. On est à sa place dans sa propre vie. J'aime bien la comparer à la profondeur de l'océan, vous savez. Il y a des tempêtes qui agitent souvent la mer. Et pourtant, dans ces profondeurs, l'océan est tranquille, je crois que c'est ça.
Quelle correspondance peut-on voir entre cet état et le samedi saint, ce jour si silencieux, un peu entre deux mondes, bien sûr, entre la vie et la mort?
Dans ce samedi saint, qui a dû être bien difficile pour ceux qui aimaient Jésus et qui l'ont vu mourir sans imaginer la résurrection, je crois que dans ce samedi saint, il nous dit tout notre chemin sur terre et toute cette espérance. L'espoir, c'est une hypothèse. L'espérance, c'est une certitude, en fait. Et dans ce samedi saint, nous qui vivons 2000 ans après les événements, c'est de se dire, bien sûr qu'on porte ce deuil et cette peine d'avoir vu Jésus crucifié la veille, humainement mourir. Et c'est de pouvoir pleurer avec cette paix intérieure, de se dire qu'il ressuscite le lendemain. Et c'est un peu ce qui nous habite et c'est très compliqué parce que Dieu n'a pas fait de nous des purs esprits et même quel que soit le degré de notre foi, on ne sera jamais un pur esprit qui pourra chanter Alléluia le jour de la mort de quelqu'un qu'il aime. C'est pas ça. On va humainement pleurer, humainement vivre cette peine et ce manque qui est réel. Et les apôtres l'expérimentent et nous l'expérimentons à notre façon le samedi saint. Mais nous le vivons avec une paix profonde parce que l'on sait qu'au bout du chemin, il y a cette résurrection et cette vie éternelle.
Voilà, interrogée par Delphine Allaire, Anne-Dauphine Julien, auteur de l'ouvrage La Consolation aux éditions de la Reine. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end pascal. Retour de l'information demain à 18h.